Chapitre 34. Alors qu'Erika et lui chevauchaient vers la citadelle, Ludwig Dreyer sondait les rues étroites et grouillantes de monde de Saavedra. Des deux côtés de la voie boueuse, des maisons à deux niveaux se pressaient les unes contre les autres, occultant la lumière du jour. Très souvent, le premier niveau abritait une boutique ou un atelier, le second servant à loger le commerçant ou l'artisan et sa famille. Devant les bâtiments ou à l'entrée des rares venelles, des charrettes de camelots attendaient la clientèle. Afin de protéger la marchandise du crachin, certaines étaient recouvertes d'une bâche goudronnée. Au fil des ans, Ludwig était souvent venu à Saavedra afin de se rendre à la citadelle. Il aimait bien cette ville et l'odeur qui flottait un peu partout. L'odeur de la peur. Les habitants craignaient la citadelle perchée sur une colline qui semblait les surveiller en permanence. En réalité, c'était Anis Arc qui les épiait et de lui qu'ils avaient peur. La citadelle n'était qu'un symbole, l'incarnation de ses angoisses. Selon Anis Arc, la peur était un premier pas vers le respect et il tenait plus que tout à être respecté. L'évêque croyait dur comme fer que si les gens le respectaient, donc tremblaient devant lui, il lui obéirait aveuglément. Du coup, il faisait tout pour terroriser ses sujets. Ludwig Dreyer se pencha sur sa selle et cracha sur le sol. Anis Arc n'était qu'un minable tyran régnant sur la province de Fadjin, le plus perdu de tous les trous perdus. Fier de terroriser une bande d'abrutis, il se prenait pour un grand homme et aspirait à de plus hautes destinées. Cet imbécile se croyait digne de régner sur un empire. Les terres noires étant extrêmement hostiles et dangereuses, les gens venaient volontiers chercher la sécurité à Saavedra. Ils avaient besoin de nourriture, de vêtements et d'une myriade de choses diverses et variées. Logiquement, ça attirait d'autres personnes disposées à leur fournir toutes sortes de services. Des bouchers, des boulangers, des guérisseurs, des marchands, des ébénistes et des filles de joie. Cette population était plus ou moins en sécurité dans la capitale, mais elle la transformait en une sorte de cité de la peur. Peur des monstres qui hantaient les forêts environnantes, peur de la citadelle, peur de son occupant. Toutes ces craintes, il convenait de le préciser, étaient entièrement justifiées. S'il se surestimait gravement, Anis Arc disposait cependant de pouvoirs occultes non négligeables. En échange de leur respect, il protégeait ses sujets, et en particulier les habitants de sa capitale, de créatures encore plus impitoyables que lui. Même s'ils vivaient dans la terreur de leur maître, les gens vivaient et c'était mieux que rien. Dans les terres noires, on avait tendance à mourir facilement, brusquement, à une fréquence très élevée. Des crocs et des griffes guettaient un peu partout les imprudents, et même ceux qui se montraient moins téméraires, mais il y avait aussi des entités bien plus cruelles et effrayantes et qui ne crachaient jamais sur une proie. Bref, si les terres noires étaient un désert quasiment inexploré, ce n'était pas pour rien. Du coup, les villes en général, et Saavedra en particulier, devenaient autant de havres de paix. Quand on voyait les choses de ce point de vue, Anis Arc passait soudain pour un chef des plus acceptables. De toute façon, les gens n'avaient pas le choix, et c'était tout aussi bien. Quand elle l'avait, la populace optait toujours pour la facilité. Un dirigeant intelligent faisait donc en sorte de limiter drastiquement les possibilités qui s'offraient à ses sujets. Pour gouverner longtemps et en paix, c'était la meilleure méthode. Ludwig et Erika, ne faisant aucun effort pour les éviter, les passants s'éparpillaient comme une volée de moineaux devant leurs montures. Si ces crétins voulaient se faire piétiner, c'était leur problème. D'une humeur massacrante, Ludwig n'allait quand même pas se tracasser à cause d'idiots qui ne regardaient pas où ils mettaient les pieds. S'ils ne voulaient pas finir sous les sabots de son cheval, eh bien à eux de se bouger les fesses. Lui, il avait de graves soucis en tête, au sujet de la tâche qui l'attendait. Bien entendu, les gens le reconnaissaient à cause de son strict manteau noir, de son col serré et de son étrange chapeau noir carré et sans bord. Et même s'ils ne l'avaient jamais vu, ils avaient au moins entendu sa description. Celle de l'abbé Ludwig Dreyer, fidèle serviteur de l'évêque Arc et maître d'une abbaye quelque part dans la forêt dont tous les gens censés restaient aussi loin que possible. Ludwig sourit en s'avisant que lui aussi était hautement respecté. Les passants écarquillaient aussi les yeux parce que maîtresse Erika chevauchait auprès de lui. D'une beauté stupéfiante, son corps parfait oscillant en rythme avec les mouvements de sa monture, cette femme méritait d'être admirée. Pourtant, la plupart des gens détournaient la tête dès qu'ils la reconnaissaient et ils détalaient comme des lapins. Tout valait mieux que croiser son regard bleu glacial, d'après ce qu'on racontait. Même s'il n'y avait pas eu les chevaux, une mort de cite en uniforme de cuir noir aurait suffi à convaincre les badauds de s'écarter. Pour risquer de se faire remarquer par une mort de cite, d'autant plus quand il s'agissait d'Erika, il fallait être fou. D'un seul regard, une telle femme pouvait sonder jusqu'au fond de votre âme. Une superstition? En fait, pas vraiment. Ludwig était bien placé pour le savoir. Erika était une des plus douées de sa profession. Pour avoir utilisé d'autres morts de cite, Ludwig savait que certaines n'étaient que des gourdes pataudes. Comparée à Erika, une artiste, elle ne valait pas tripette. Erika pouvait garder une personne entre la vie et la mort pendant des jours. Et tandis que le sujet se trouvait à mi-chemin du monde des vivants et du royaume des morts, Ludwig, grâce à ses pouvoirs occultes, pouvait les forcer à regarder dans les infinies profondeurs du temps, d'où il lui ramenait des prophéties en échange de la faveur qu'il leur faisait miroiter. Celle de traverser enfin le voile pour échapper à la souffrance, à savoir tout ce que la vie, avec la collaboration active d'Erika, pouvait encore leur apporter. Quand on avait judicieusement limité leur choix, leur ôtant tout espoir, les gens imploraient de mourir puisque c'était la seule façon de ne plus souffrir entre les mains de maîtresse Erika. Lorsque Ludwig Dreyer ajoutait le dernier ingrédient au culte requis, ils acceptaient avec joie d'accomplir la mission dont il les chargeait, puis de sombrer à tout jamais dans la mort. Parce qu'il apportait en somme la paix à des malheureux, Ludwig se considérait comme un agent de la grâce. De plus, ne leur permettait-il pas de suivre le chemin assigné aux âmes par la création? D'abord la lumière, puis la traversée du voile, afin d'entrer dans un autre monde? Mais Ludwig en avait fini avec son existence d'abbé. C'était une période révolue de sa vie, une période fondatrice, cela dit, et un tremplin pour un avenir plus glorieux. En fait, il avait toujours valu bien plus qu'un simple abbé. Nul n'avait voulu le reconnaître, et surtout pas Anis Arc, mais c'était ainsi. Alors qu'il accomplissait sa modeste mission, observant, apprenant et attendant, il était passé inaperçu. Tirant parti de ce statut d'anonyme, il avait travaillé dans l'ombre pour développer ses dons naturels et en faire de terribles pouvoirs, cachés bien entendu. En tout cas jusqu'à maintenant. Passé des années à peaufiner ses talents et à ourdir ses plans dans l'anonymat ne l'avait en rien dérangé. Durant cette période, il avait aidé Anis Arc, lui-même lancé dans de grands desseins. Mais il avait agi ainsi parce que ça servait ses propres intérêts et pour aucune autre raison. Ludwig était né très près du mur du Nord, derrière lequel se tapissaient d'incroyables pouvoirs occultes. Une telle puissance ne pouvant pas être emprisonnée à jamais, le mur n'était jamais parvenu à la contenir complètement. Puis la barrière avait fini par céder, comme c'était prévisible. Depuis toujours, Ludwig savait qu'il devait certains de ses talents naturels aux fuites qui se produisaient dans le mur du Nord. Au moment de sa conception, quelque chose l'avait touché sans que nul s'en aperçoive. C'était également la source des pouvoirs d'Anis Arc et de bien des créatures humaines ou non qui rôdaient dans les forêts des terres noires. Mais chez Ludwig, ses pouvoirs étaient venus s'ajouter à son don. Du coup, il était un être radicalement unique, même si nul ne s'en était avisé jusque-là. Ça lui faisait au moins un point commun avec Richard Rall, qui avait grandi sans rien connaître de son considérable potentiel. Personne n'avait reconnu le don qu'il avait en lui, exactement comme c'était arrivé à Ludwig. À une différence près cependant, ce dernier avait toujours été conscient d'être à part. Dans son coin, sans aide, il avait étudié et travaillé, développant ses pouvoirs. Anis Arc arborait aux yeux de tous les antiques talents dont il avait hérité. Littéralement, puisqu'il s'agissait de ses tatouages. Il voulait que le monde sache. Ludwig, lui, avait choisi le secret, jusqu'à ce que le moment voulu arrive. Eh bien, on y était, et ses plans allaient porter leurs fruits. Anis Arc, un agent du chaos, pensait que créer le désordre et le tumulte renforcerait sa puissance. Plus subtil, Ludwig avait compris que la puissance, dans un monde livré au chaos, reviendrait à l'homme qui saurait se présenter au peuple comme le champion d'un nouvel ordre, ce sauveur providentiel dont la populace ne pouvait pas s'empêcher de rêver. Quand on en serait là, vu les choix que Ludwig proposerait à ses idiots, il se jetterait dessus, jugeant sa conception de l'ordre bien plus rassurante que les délires d'Anis Arc, aveuglé par sa folie des grandeurs. Ce crétin d'évêque se croyait capable de modifier radicalement le monde en changeant la nature même de la vie. En réalité, c'était Ludwig depuis le début qui l'aidait à semer le désordre et à générer le chaos. Seul, il n'en aurait pas été capable. Et quand tout ça échapperait à son contrôle, qui apparaîtrait comme l'unique recours? Qui remettrait les choses dans l'ordre? Ludwig, bien entendu. Mais à sa façon, évidemment. Tout s'était déroulé sans anicroche jusqu'à ce que le roi spectral fournisse à Anis Arc des informations glanées dans le royaume des morts. Ayant appris ce que faisait Ludwig et ce qu'il préparait, Sulakan avait vendu la mèche à l'évêque. Et ils avaient envoyé des sauvages, les demi-humains, éliminer l'abbé qu'ils voyaient comme un félon. Même s'ils étaient considérables, les pouvoirs de Ludwig avaient des limites. Après tout, il restait un homme susceptible d'être submergé par le nombre comme face aux demi-humains. Anis Arc et Sulakan l'avaient pris par surprise, manquant l'anéantir. Étrange mais bienvenu paradoxe, c'était Richard Rahl qui l'avait sauvé en venant secourir sa femme, la fichue mère inquisitrice, juste avant qu'Erika commence à la travailler afin de la livrer à son maître. Une femme comme Callan pouvait sûrement glaner de très importantes prophéties. Alors que Ludwig se réjouissait de l'avoir pour cobaye, Rahl et ses forces avaient déboulé juste à temps pour saboter la fête. Cela dit, ils étaient tombés sur les demi-humains venus assassiner Ludwig, et ils avaient eu l'obligeance de les massacrer, permettant à l'ancien abbé et à sa mort de site d'échapper au sort que l'évêque et l'empereur mort leur réservaient. Parfois, le chaos se retournait contre ses propres agents. Avec les prophéties, Ludwig avait activement aidé Anis Arc à ramener sous la canne du royaume des morts afin qu'il puisse radicalement modifier la nature du monde. Ressusciter un mort pour livrer de nouveau une guerre déjà perdue une fois ne semblait pas judicieux, mais puisque ça servait ses objectifs, Ludwig avait prêté assistance à l'évêque. En grande partie grâce à des prophéties fournies par l'abbé, Anis Arc avait réussi à rappeler sous la canne dans le monde des vivants. Les deux hommes ne s'accordaient aucune confiance, chacun pensant manipuler l'autre. Pour l'instant, ça faisait d'eux les alliés les plus loyaux de l'univers. Ils devaient multiplier les sourires et les flatteries, chacun songeant au jour où ils couperaient enfin la gorge de l'autre et resteraient le seul maître du monde. Pour l'heure, Ludwig se fichait de ce qu'il mijotait. Au contraire, tant qu'il jouait à leur petit jeu et augmentait le chaos ambiant, il travaillait pour lui. Car ce chaos serait une des options que Ludwig proposerait au peuple, un repoussoir, bien entendu. Ces deux imbéciles avaient de quoi s'occuper et ça leur épargnerait de penser à lui. Bien entendu, il avait du pain sur la planche. Après avoir failli laisser sa peau dans l'abbaye, il avait besoin d'un nouveau fief pour travailler à ses plans. Abandonné par Anis Arc, en route pour la gloire, pensait-il, la citadelle semblait être l'endroit idéal. Depuis toujours, l'évêque détestait être un minable gouverneur de province exilé dans une cité miteuse comme ça à Vedra. En conséquence, il n'y avait aucun risque qu'il y revienne. Ce crétin avait des vues sur le palais du peuple, rien que ça. Lui, régnant sur l'empire d'Aran, quelle sinistre plaisanterie! Mais il rêvait de vengeance sur la maison Rahl, et dans ses fantaisies, il se voyait la réduire à néant et prendre sa place. Dans sa folie, il paraissait logique qu'il veuille s'installer au palais du peuple, le foyer ancestral des Rahl. Ludwig avait récemment assisté au mariage d'une des morts de site de Richard Rahl. Le palais du peuple était vraiment quelque chose. Un complexe impressionnant quand on s'intéressait à ces futilités-là. Ce n'était pas son cas. Lui, il entendait vivre dans l'esprit de ses sujets, afin de régner en connaissance de cause, chacune de leurs pensées lui servant à mieux les contrôler. Avec un projet pareil, on se fichait des palais de marbre. Vivre dans l'esprit des gens, pas dans leur palais. Anis Arc, lui, courait après les ors et le marbre. En somme, ce qu'il détestait dans la citadelle la rendait désirable aux yeux de Ludwig. Qui songerait à le chercher dans cette place forte presque oubliée? Personne, et surtout pas Anis Arc, en admettant qu'il sache un jour que son abbé avait survécu. Entre ces murs, nul ne dérangerait Ludwig pendant qu'il travaillerait. Un jour, tout le monde le connaîtrait et devrait choisir entre l'ordre et le chaos. Ce serait la source de sa puissance, avoir été choisi pour régner. Anis Arc pensait que la peur suffisait. Une erreur grossière. Pour dominer les gens, il fallait le faire avec leur consentement. Grâce aux choix truqués qu'il leur proposerait, ses sujets s'empresseraient d'accepter sa domination. Le processus pouvait commencer n'importe où. Au début, la citadelle, Saavedra et la province de Fadjin feraient parfaitement l'affaire. D'autant plus que des endroits si insignifiants ne risquaient pas d'intéresser les mégalomanes comme Anis Arc. Mais un jour, en réfléchissant, tous les tyrans de seconde zone regretteraient d'avoir négligé la menace. Dans ses fonctions d'abbé, Ludwig avait glané des prophéties en transmettant certaines à Anis Arc, triées sur le volet bien entendu. Imbu de lui-même, l'évêque ne s'était jamais douté que son petit abbé lui avait fait gober exactement ce qu'il voulait le voir avaler et rien de plus. Au regard que lui jetaient les passants, Ludwig conclut qu'il était temps pour lui de renouveler sa garde-robe. De nouvelles tenues plus en rapport avec son importance. Homme prudent, il ne faisait jamais rien sans connaître le résultat à l'avance. En particulier, il ne provoquait jamais un combat qu'il n'était pas sûr de remporter. L'heure était venue de prendre possession de son nouveau fief et de dicter ses règles. Anis Arc lui avait fait un beau cadeau en lui abandonnant la citadelle et quelque chose qui ressemblait à une armée, si imparfaite soit-elle. Si étendu que soient ses pouvoirs, Ludwig restait un homme de chair et de sang. Pendant qu'il se consacrerait à sa grande œuvre, il lui faudrait des gens pour surveiller ses arrières. Certain de son succès, il continua son chemin vers la caserne de Saavedra et au-delà, vers la citadelle qu'elle défendait.